Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Guillaume Yenert, je suis doctorant en études cinématographiques et je travaille à l'université Bordeaux-Montaigne sous la direction de Gwenaël Legras et de Joël Augros. Et je travaille sur les costumes d'Yves Saint-Laurent pour le cinéma. Je voudrais remercier les organisateurs et les organisatrices de cette journée de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce sujet sur 10%, donc cette étude de cas sur la représentation du vieillissement et de la vieillesse dans une série que nous connaissons peut-être toutes et tous et qui s'appelle donc 10%. Alors la série de 10%, pour la présenter voilà, brièvement, c'est une série qui a été créée par Fanny Herrero, dont le nom s'affiche en haut de l'écran. Fanny Herrero, donc scénariste, et qui a créé cette série 10% dans les années 2010. Le premier épisode de la première saison a été diffusé au milieu des années 2010, en 2015, à l'automne 2015, et c'est une production qui est toujours en cours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on compte aujourd'hui 4 saisons diffusées, d'abord sur France Télévisions et ensuite dans des plateformes de streaming que nous connaissons, et il serait question, éventuellement, d'une prolongation de ces 4 saisons par une saison supplémentaire, et éventuellement, il est aussi question d'un film, d'un long métrage autour de la série 10%. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série 10%, cette série 10%, en fait, thématise un regard caméra différent de ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser dans cette série à la vie, certes, des acteurs et des actrices et des stars, mais du point de vue de leurs agents, c'est-à-dire des personnes qui vont gérer la carrière de ces acteurs et de ces actrices. C'est-à-dire qu'il va y avoir, tout au long de ces épisodes et de ces saisons, un mouvement comme ça, un double mouvement, qui va être d'une part la vie de ces 4 principaux agents qui sont des personnages fixes et récurrents, dont on va suivre la vie, et on va suivre les interactions de ces personnages avec des acteurs et des actrices qui sont en réalité des invités qui vont être invités le temps d'un épisode le plus souvent. Alors ces 4 personnages fixes, que sont les 4 agents qu'on va suivre d'épisode en épisode, vous les avez représentés sur la diapositive, c'est de gauche à droite Liliane Rover qui incarne Arlette, ensuite vient Thibaut de Montalembert qui incarne Mathias, plus sur la droite, Camille Cotin, qui incarne Andrea, et enfin, tout à droite, Grégory Montel, qui incarne Gabriel. Alors, autour de ces 4 agents vont graviter, d'une part, un groupe d'acteurs et d'actrices invités le temps d'un épisode, mais aussi un certain nombre d'assistants, qui ne sont pas systématiques à chaque agent, mais presque chaque agent aura son assistant, et qui permet déjà de thématiser un des fils rouges de la série qui va être véritablement la passation entre les générations. Donc la question de la vieillesse et du vieillissement se fait aussi quelque part en toile de fond à travers cette passation entre les générations, puisqu'on voit des liens très forts entre leurs agents, voilà, les agents disons confirmés, et leurs assistants novices, et parfois un petit peu plus jeune. Alors on le voit dans la diapositive, à commencer par en haut, avec Camille Cotin et son assistante incarnée par Fanny Sidney. Hein, donc on voit la passation aussi entre les assistants novices et les agents plus confirmés. On voit aussi cette passation entre le personnage incarné par Grégory Montel et le personnage de son assistant incarné par Nicolas Maury. Et il se trouve que parfois, cette passation entre les générations va changer un petit peu de regard, c'est-à-dire que ça va passer des personnages récurrents que sont les agents et leurs assistants vers les personnages invités que sont les acteurs et les actrices. J'en ai montré un exemple en bas à droite. Un épisode n'hésitera pas à thématiser la passation entre mère-fille, c'est-à-dire entre Nathalie Baye et Laura Smet en l'occurrence. Alors cette question de la passation entre les générations, c'est quelque chose qui est récurrent dans le scénario de la série 10%. Certains épisodes vont avoir à cœur de thématiser cette question du vieillissement et de la vieillesse comme thème principal, d'autres comme thème périphérique. Citons certains épisodes qui parlent justement de cette passation entre générations confirmées et novices. Alors, il va y avoir un épisode consacré à Lynn Renault et Françoise Fabian, un autre épisode consacré à François Berléand, qui va donc manifester son désir d'interpréter le premier rôle dans une pièce d'un jeune metteur en scène, et c'est ce qui va justement être thématisé tout au long de l'épisode. Un épisode avec Isabelle Adjani va parler du désir de l'actrice de tourner dans le film d'un très jeune metteur en scène, et son âge est dit donc 28 ans. Et puis, plus proche de nous dans le temps en termes de saison, il va y avoir aussi un épisode consacré à Jean Reno qui va en fait aborder un nouveau pan de sa carrière et qui va donner la réplique notamment à Lolita Chama, donc toujours cette thématique de la génération suivante. Alors, c'est quelque chose, je vous disais, qui est tout à fait récurrent. Donc, on peut parler d'un leitmotiv d'une génération à l'autre qui concerne aussi bien les acteurs masculins que les actrices féminines. On le voit bien dans les saisons qui ont été diffusées assez récemment. Hein, c'est un pari qui, à mon sens, a été tout à fait réussi de représenter cette passation entre les novices, les confirmés, les novices. On le voit dans un épisode consacré à Gérard Lanvin qui va donner la réplique à un acteur qui vient commencer sa carrière, et c'est sensiblement sur la même trame narrative que va se construire l'épisode dédié à Franck Dubosc, à travers des scènes, vous voyez ici au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, et nous y reviendrons, c'est sur cette même trame de un acteur confirmé va donner la réplique à un acteur novice. Alors, dans les dernières saisons, un épisode consacré à Sigourney Weaver montre comment l'actrice va faire de son âge un atout pour démontrer sa capacité et son aptitude à tourner et à influer directement sur le processus de conception du scénario. Il est question qu'elle vive une histoire d'amour avec Bernard Verlet, et elle va faire la démonstration qu'il est aussi possible qu'elle vive une histoire d'amour avec Gaspard Ulliel, son cadet. Alors, voilà, quand j'ai réfléchi à la façon de vous exposer cette problématique du vieillissement féminin et de la vieillesse masculine ou inversement, j'ai pensé aborder l'intégralité de la série, je pense qu'on se réservera ça pour une autre occasion. Dans les minutes qui nous restent, je vous propose d'aborder plus précisément, d'esquisser plus précisément les liens, les représentations du vieillissement féminin d'une part et de la vieillesse masculine d'autre part dans la série à travers deux épisodes qui sont deux études de cas et qui n'appartiennent pas à la même saison. Alors il m'a semblé judicieux, mais on en discutera peut-être tout à l'heure, de vous parler d'une part du cas de Cécile de France et d'autre part du cas de Guy Marchand. Alors, ce qui est intéressant avec le cas Cécile de France, c'est que dans la réalité, Cécile de France aurait été la première à vouloir se lancer dans l'aventure 10%. Hein. Et cette particularité s'accompagne à l'écran d'une particularité également d'ordre esthétique. C'est-à-dire que pour la réalisation des épisodes, de l'épisode avec Cécile de France, on va faire appel à un metteur en scène particulier qui est Cédric Clapiche. Cédric Clapiche va donc réaliser le premier épisode de la première saison de 10%, et c'est en quelque sorte aussi une façon pour l'acteur, l'actrice et le réalisateur de se retrouver l'un et l'autre, puisque l'un et l'autre sont en quelque sorte l'égérie de l'un et de l'autre, Cécile de France ayant tourné plusieurs films avec Cédric Clapiche. Alors dans l'épisode avec Cécile de France, il est question que Cécile de France, à travers son agent, Gabriel, Grégory Montel, se prépare pour jouer un rôle important qui pourrait être un tournant dans sa carrière. Ce serait un film mis en scène par Quentin Tarantino, et pour ce film, elle doit faire la démonstration de ses capacités à faire du cheval et à paraître plus jeune que son âge. C'est sur cet espace-là que s'ouvre l'espace pré-générique de ce premier épisode, donc le tout début de la première saison de 10%. Alors je ne sais pas si Cécile de France prend des risques en jouant ce rôle-là, ça c'est un jugement que je ne me permettrai pas de faire. En tout cas, ce qui est important, c'est que déjà, tout de suite, dans la représentation du vieillissement et de la vieillesse, on remarque que c'est un thème qui va tout de suite monopoliser l'attention des scénaristes et du metteur en scène, à tel point que c'est ce sur quoi va se construire le premier épisode de la première saison, qui va donner le ton pour le reste aussi de la série. Il y a aussi, d'autre part, une certaine autodérision manifestée de la part de l'actrice, qui n'a pas hésité à se montrer aussi dans un tournant de sa carrière. Alors, l'épisode avec Cécile de France me semble résonner tout particulièrement avec le texte fameux de Susan Sontag hein, sur le double standard du vieillissement lié au féminin, puisque dès l'espace pré-générique, c'est aussi une chose importante, on assiste à la façon dont Cécile de France va se mettre en scène à travers ce que Susan Sontag aurait pu appeler le théâtre de la féminité, notamment à travers des scènes au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, le maquillage étant évidemment très important, et on voit d'un plan à l'autre qu'elle se transforme de ses vêtements d'équitation à ses vêtements pour une séance de shooting photo. Or, c'est pas tout à fait fini là. À travers ce shooting photo, la caméra montre en quelque sorte les coulisses, le backstage, comme on pourrait appeler ça, de la façon dont les techniciens et les techniciennes de cette séance photo ont à cœur de rajeunir l'image de Cécile de France à travers la façon dont on montre presque des inserts sur ces outils qui permettent de rajouter des filtres, de rajouter de la lumière et que sais-je encore, à travers l'écran, sur le vif, directement pendant la séance photo. Alors, le point de départ du générique d'ouverture, le point de tension sur lequel va se construire l'épisode, c'est le problème d'âge de Cécile de France. On apprend par l'agent du réalisateur Tarantino que Cécile de France, finalement, ne sera pas engagée pour le rôle parce qu'il y a, nous dit-on, nous écrit-on, un problème d'âge. Et l'agent ajoute qu'elle est désolée. Ce problème d'âge, il nous est annoncé en gros plan à travers l'écran d'un téléphone portable qui est morcelé, cassé, et qui redouble donc la symbolique du vieillissement avec ses fêlures sur l'écran. Alors là, c'est une recherche en cours, donc j'aimerais beaucoup le partager avec vous, mais ce sont des hypothèses. Ce que vous voyez sur ce photogramme-là de l'épisode avec Cécile de France, donc pendant ce fameux shooting photo, ce sont aussi des sacs blancs que vous voyez sur la droite de l'écran et au centre de l'écran, qui sont des sacs à l'effigie de certaines marques de cosmétiques. En l'occurrence, Sotis, en l'occurrence, Lancôme, en l'occurrence, Christophe Robin. Alors, Christophe Robin, c'est une place un peu à part, c'est le coloriste pour les cheveux des stars. N'empêche que Sotis et Lancôme sont des logos qu'on voit très fréquemment dans quasiment tous les épisodes de 10%, ou en tous les cas dans beaucoup d'épisodes. Ce qui fait que Sotis et Lancôme, donc, qui sont des marques de cosmétiques, deviennent des marques diégétiques. Hein, on a l'impression aussi qu'il y a un placement de produits avec d'autres marques, par exemple des marques alimentaires, sans qu'on puisse néanmoins le vérifier. En tout cas, pour l'instant, c'est assez difficile d'avoir des informations précises sur ça. Néanmoins, on peut faire l'hypothèse que Sotis et Lancôme ont participé à la série puisqu'elles sont diégétiques, c'est-à-dire qu'on les voit et que les personnages en parlent entre eux. Et quand les personnages en parlent entre eux, c'est pour des produits qui sont soit activateurs de jeunesse, soit régénérateur de jeunesse, aussi bien du point de vue des acteurs que du point de vue des assistants. Et ça, mine de rien, ça a une influence aussi sur le déroulé du scénario. En ce qui concerne Cécile de France, je continuerai à dérouler ces parallèles avec le texte de Susan Sontag sur le double standard du vieillissement lié au féminin, puisque, à la fin de l'épisode, il y a un retournement de situation. Cécile de France avait plus ou moins décidé de recourir à une intervention chirurgicale pour se rajeunir et accepter le rôle de Tarantino, qui avait posé cette question du rajeunissement pour être accepté. Et c'est dans la salle d'attente de ce chirurgien qu'elle va réaliser l'absurdité de la situation. C'est-à-dire que Cécile de France est montrée en champ contre champ, entre une statue de femme nue et une cliente qui est donc de la génération d'avant elle, une cliente plus vieille qu'elle. Et c'est ce procédé de champ contre champ qui nous renvoie à l'iconographie de la statuaire, notamment de Rodin, dont parle textuellement Susan Sontag, eh bien, qui va montrer un petit peu l'absurdité de la situation et qui va conduire Cécile de France eh bien, à s'en aller et à ne pas recourir à cette opération chirurgicale qui visait à la rajeunir. Alors, dans un autre registre, j'évoquerai dans le temps qui nous reste le cas de Guy Marchand, dans un épisode qui n'appartient pas à la même saison, c'est une saison donc postérieure. Le cas de Guy Marchand, lui aussi, emprunte à Cécile de France une certaine tension qui est posée dès l'espace pré-générique. Dès l'espace pré-générique, on va voir que Guy Marchand est montré sur un tournage donc fictif de film. Et là, on s'inquiète un petit peu. Pourquoi? Parce que Guy Marchand, eh bien, ne reconnaît plus personne sur l'équipe, ou en tout cas son personnage. Il prétexte un déjeuner ou un dîner, il s'en va sur son vélo, alors qu'il ne reconnaît ni son agent, qu'il prend pour l'assistant d'un agent confirmé qui est décédé, et qu'il ne reconnaît pas non plus le metteur en scène, qu'il trouve, je le cite, fort charmante au demeurant. Alors c'est encore une fois une scène de HMC, habillage, maquillage, coiffure, qui va venir thématiser cette passation entre les générations confirmées et novices, à travers ici, vous le voyez au bas de l'écran, une confrontation entre Guy Marchand d'une part et François Civil d'autre part, toujours avec cette scène, cette présence à gauche de l'écran du logo de la maison Sotis, il me semble, oui c'est Sotis, hein, cette fameuse marque de cosmétiques qui est un petit peu partout dans la série 10%. Alors, l'épisode avec Guy Marchand me paraît résonner de manière tout à fait particulière avec un texte théorisé par les deux auteurs et autrices, dont vous voyez les noms en haut de la diapositive, qui se sont intéressés à la question de la vieillesse et du vieillissement des acteurs et qui ont établi une grille de quatre facteurs pour faire la démonstration que les acteurs vieillissants sont tout à fait aptes à tourner. Ces quatre facteurs sont les quatre F qui reposent sur la forme physique, le fait d'être à la mode, la fonctionnalité et la flexibilité. Donc forme physique, fait d'être à la mode, fonctionnalité et flexibilité. Or, il se trouve que l'épisode avec Guy Marchand fait la démonstration du fait que l'acteur, même vieillissant, coche toutes les cases, hein, de son aptitude à tourner et même de son aptitude à, eh bien, être force de proposition pour modifier le scénario et trouver pleinement sa place dans l'équipe du film. Il se trouve que l'épisode, l'espace post-générique d'ouverture, thématise un rendez-vous médical à l'hôpital avec une radiographie d'un cerveau dont on s'imagine qu'il a un problème et en fait pas du tout. Hein, Guy Marchand est en forme, il doit simplement se reposer. Mais c'est juste après avoir vu cette radiographie en gros plan que le nom de Guy Marchand, sous le titre d'une participation exceptionnelle, apparaît. Donc son nom est associé à l'univers médical. Sauf que quand on s'intéresse au déroulement de l'épisode, on voit que l'épisode avec Guy Marchand déplace quelque part aussi la focale, l'intérêt des protagonistes jeunes vers des protagonistes plus âgés, puisque cet épisode thématise une histoire d'amour oubliée entre, eh bien, Liliane Revers, Arlette et Guy Marchand. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et je finirai là-dessus, c'est que cet épisode me paraît démontrer à quel point la série 10% est novatrice et intéressante dans les représentations du vieillissement. Hein, dans son ouvrage L'écroulant se porte bien, Ariane Beauvillard avait fait le témoin que peu de choses pourraient modifier tout cela, sauf que son ouvrage donc a été publié avant le lancement de la série 10%, et il m'a semblé que là, on pouvait apporter une pierre nouvelle à la représentation du vieillissement par le fait que la série 10% n'a pas cherché à fuir cette problématique du vieillissement. Au contraire, elle en a fait quelque chose de tout à fait central, et qui est central dans certains épisodes et parfois périphérique dans d'autres. Donc on évite l'écueil d'en parler et on évite l'écueil de ne pas en parler. Donc c'est tout à fait intéressant. Et je terminerai sur le fait que cette série me paraît aussi intéressante parce qu'elle a aussi redonné de la visibilité à des acteurs confirmés, évidemment talentueux, mais ça c'est un jugement de valeur, comme Liliane Revers par exemple, qui aujourd'hui participe à des séries comme Family Business, qu'on peut voir sur les plateformes connues de vos services, comme Netflix par exemple, et qui fonctionne très bien aujourd'hui, il me semble, et qui fait la démonstration de l'aptitude de ces acteurs confirmés à tourner encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.